Marc 4, à partir du verset 35. Ce jour-là, quand le soir fut venu, Jésus dit à ses disciples, « Passons de l'autre côté du lac. » Il laissa la foule et emmena Jésus sur le lac, dans la barque où il se trouvait. D'autres bateaux les accompagnaient. Or voilà qu'un vent très violent se mit à souffler. Les vagues se jetaient contre la barque qui se remplissait d'eau. Lui, à l'arrière, dormait, la tête sur un coussin. Les disciples le réveillèrent et lui crièrent, « Maître, nous sommes perdus, et tu ne t'en soucies pas ?» Il se réveilla, parla sévèrement au vent et ordonna au lac, « Silence, tais-toi !» Le vent tomba, il se fit un grand calme. Puis il dit à ses disciples, pourquoi avez-vous si peur? Vous ne croyez pas encore? Mais eux furent saisis d'une grande crainte. Ils se disaient les uns aux autres, « Qui est donc cet homme pour que même le vent et le lac lui obéissent ?» Ils arrivèrent de l'autre côté du lac, dans la région de Gérasa, où Jésus débarqua. Aussitôt, sortant des tombeaux, un homme qui était sous l'emprise d'un esprit mauvais vint à sa rencontre. Il habitait dans les tombeaux, et même avec une chaîne, personne ne pouvait plus le tenir attaché. Car on l'avait souvent enchaîné, et on lui avait mis des fers aux pieds, mais il cassait les chaînes et brisait les fers. Personne ne pouvait le maîtriser. Sans cesse, nuit et jour, il errait parmi les tombes et sur les montagnes en hurlant, se blessant contre les rochers. D'aussi loin qu'il vit Jésus, il accourut, se prosterna devant lui et lui cria de toutes ses forces, « Que me veux-tu, Jésus, fils de Dieu très haut? Je te conjure, au nom de Dieu, ne me tourmente pas. » Quand Jésus lui disait, « Esprit mauvais, sors de cet homme. » Jésus lui demanda, « Quel est ton nom ?»« Je m'appelle Légion, lui répondit-il, car nous sommes une multitude. » Et il pria instamment Jésus de ne pas les renvoyer du pays. Or, il y avait par là, sur la montagne, un grand troupeau de porcs en train de paître. Les esprits mauvais supplèrent Jésus. « Envoie-nous donc dans ces porcs, pour que nous entrions en eux. » Jésus le leur permit. Ils sortirent donc de l'homme et entrèrent dans les porcs. Aussitôt, le troupeau, qui comptait environ 2000 bêtes, s'élança du haut de la pente et se précipita dans le lac, où elles se noyèrent. Les gardiens s'enfuirent et allèrent raconter l'histoire dans la ville et dans les fermes. Les gens vinrent donc voir ce qui s'était passé. Arrivés auprès de Jésus, ils virent l'homme qui avait été sous l'emprise de cette légion de démons, assis là, habillé et tout à fait sain d'esprit. Alors la crainte s'empara d'eux. Ceux qui avaient assisté à la scène leur racontèrent ce qui était arrivé à cet homme et au porc, et les gens se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. Au moment où Jésus remontait dans la barque, l'homme qui avait été délivré des démons lui demanda s'il pouvait l'accompagner. Mais Jésus ne le lui permit pas. Il lui dit, « Va, rentre chez toi, auprès des tiens, et raconte-leur ce que le Seigneur a fait pour toi et comment il a eu pitié de toi. » Alors il s'en alla et se mit à proclamer dans la région des 10 villes ce que Jésus avait fait pour lui, au grand étonnement de ceux qui l'écoutaient. Jésus regagna en barque l'autre rive du lac. Là, une foule immense s'assembla autour de lui sur le rivage. Survint alors l'un des responsables de la synagogue, nommé Jairus. En voyant Jésus, il se jeta à ses pieds et le supplia instamment. « Ma petite fille va mourir. Viens lui imposer les mains pour qu'elle guérisse et qu'elle vive. » Alors Jésus partit avec lui, suivi d'une foule, nombreuse qui le serrait de tous côtés. Dans la foule se trouvait une femme atteinte d'hémorragie depuis 12 ans. Elle avait été soignée par de nombreux médecins et en avait beaucoup souffert. Elle avait dépensé toute sa fortune sans trouver la moindre amélioration. Au contraire, son état avait empiré. Elle avait entendu parler de Jésus. Et dans la foule, elle s'était approchée de lui par derrière et avait touché son vêtement, en se disant, « Si j'arrive à toucher ses vêtements, je serai guérie. » À l'instant même, son hémorragie s'arrêta et elle se sentit délivrée de son mal. Aussitôt, Jésus eut conscience qu'une force était sortie de lui. Il se retourna dans la foule et demanda, « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui dirent, « Tu vois la foule qui te presse de tous côtés et tu demandes qui m'a touché ?» Mais lui continuait à parcourir la foule du regard pour voir celle qui avait fait cela. Alors, saisie de crainte et toute tremblante, la femme, sachant ce qui lui était arrivé, s'avança, se jeta aux pieds de Jésus et lui dit toute la vérité. Jésus lui dit, « Ma fille, parce que tu as eu foi en moi, tu es guérie. Va en paix et sois guérie de ton mal. » Pendant qu'il parlait encore, quelques personnes arrivèrent de chez le chef de la synagogue pour lui dire, « Ta fille est morte. À quoi bon importuner encore le maître ?» Mais Jésus entendit ces paroles. Il dit au chef de la synagogue, « Ne crains pas, crois seulement. » Il ne permit à personne de le suivre plus loin, excepté Pierre, Jacques et Jean, son frère. En arrivant à la maison du chef de la synagogue, Jésus vit une grande agitation. On pleurait et on poussait des cris. Il entra dans la maison et dit, « Pourquoi ce tumulte? Pourquoi ces pleurs? L'enfant n'est pas morte, elle est seulement endormie. » Et on se moqua de lui. Alors il fit sortir tout le monde, prit avec lui le père et la mère de l'enfant ainsi que les disciples qui l'accompagnaient, et il entra dans la pièce où l'enfant était couché. Il lui prit la main en disant, « Talita kumi », ce qui signifie, « Jeune fille, lève-toi, je te l'ordonne. » Aussitôt, la jeune fille se mit debout et marcha. Elle avait environ 12 ans. Tous furent frappés de stupeur. Jésus leur recommanda instamment de ne raconter ce miracle à personne et il leur dit de donner à manger à la jeune fille. Jésus partit de là et retourna dans la ville dont il était originaire, accompagné de ses disciples. Le jour du sabbat, il se mit à enseigner dans la synagogue. Beaucoup de ses auditeurs furent très étonnés. « D'où tient-il cela ? » disait-il. « Qui lui a donné cette sagesse ? D'où lui vient le pouvoir d'accomplir tous ces miracles ? N'est-il pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de Joseph, de Jude et de Simon ? Ses sœurs ne vivent-elles pas ici parmi nous ?» Et voilà pourquoi ils trouvaient en lui un obstacle à la foi. Alors Jésus leur dit, « C'est seulement dans sa patrie, dans sa parenté et dans sa famille que l'on refuse d'honorer un prophète. Il ne put accomplir là aucun miracle, sinon pour quelques malades à qui il imposa les mains et qui guérit. Il fut très étonné de leur incrédulité. » Jusqu'ici la lecture de la parole de Dieu. Alors c'était quand la dernière fois que vous avez eu très peur? Pensez à une situation. Je pense à un jour où on était sur l'autoroute, une voiture qui fait... Et là, pendant 2 minutes, voilà. Je pense au jour où j'avais, je ne sais pas, 19 ans. Mes parents étaient en vacances à l'étranger. Ma sœur Sarah a eu... une méningite bactérienne très grave. Et moi, j'avais raté les premiers symptômes. Elle a fini par appeler le médecin qui vient. J'ai dû aller avec elle dans l'ambulance jusqu'à l'hôpital. Alors, je n'étais pas chrétien à ce moment-là, mais je peux vous dire que j'ai prié. J'ai prié parce que je savais que, voilà, elle aurait pu mourir, mais elle était traitée à temps et s'en est sorti sans séquelles, merci Seigneur. Il y a des moments où vraiment on a très peur. Peut-être même aujourd'hui, il y a des choses qui nous font peur, de près ou de loin. Mais continuons dans l'évangile de Marc et dans ce que nous venons d'entendre, il y a différentes histoires et peut-être que certaines vous les connaissez. Mais il y a une raison que Marc les a mis ensemble ici. Il y a un fil conducteur. Alors, d'abord, on voit que dans différentes situations désespérées, Jésus est puissant pour sauver. Ce qui est étonnant ici, c'est que Marc, c'est l'évangile le plus court, Marc qui a tendance à raconter les choses très rapidement, là il nous livre des détails, il décrit chaque scène pour qu'on sente le danger ou le mal ou la peur, la manière dont les gens vivent des situations et qui font appel à Jésus. Il veut vraiment qu'on soit conscient du drame avant que Jésus n'intervienne. Commençons donc par l'histoire de la barque et la tempête. Alors certains ont vu des parallèles entre cette histoire et l'histoire de Jonas. Il y a une traversée qui change en cauchemar, des marins qui craignent pour leur vie, un homme qui dort alors que la tempête fait rage, on le réveille pour lui demander de faire quelque chose, il y a une action et puis un grand calme. Mais dans l'histoire de Jonas, c'est le prophète qui avait désobéi à Dieu, qui demande au marin de le jeter par-dessus bord. Ici, c'est Jésus, le Fils de Dieu, qui parle sévèrement au vent et au lac, et la nature lui obéit. Vous imaginez être à la place des disciples? Certains, avec une grande expérience en mer, les pêcheurs, d'autres, un peu moins. Et vous êtes dans une barque qui se remplit d'eau, et là vous êtes, je ne sais pas à quelle distance, de la terre ferme, et on se dit, ah, c'est comme ça que ma vie va se terminer. En quelques minutes, je serai au fond du lac. Ma famille ne me verra plus. Ça y est, c'est la fin. Et puis, on réveille Jésus, on se dit, mais ça t'embête pas qu'on va tous mourir? Et Jésus qui change totalement la situation, mais comme ça. Et là, la tempête s'arrête. Il n'y a plus de vent. Il n'y a plus de vagues. Et on se dit, oh là. On est encore là. On est en vie. Et c'est grâce à cet homme-là. Et franchement, je ne suis pas à l'aise. Je ne suis pas à l'aise. Ils arrivent à l'autre côté du lac. Maintenant, une autre situation où on est face à, disons, cette fois-ci, à quelqu'un qui fait très peur. Un homme possédé par des démons. On dirait qu'il est devenu un monstre. On a essayé de le contenir, de le lier avec des chaînes, avec des fers. Mais c'est comme il a une puissance surnaturelle démoniaque. Rien ne peut le contenir. Et il est là, dans les tombeaux, un homme qui vit dans l'ombre de la mort. Et on voit sa vie tourmentée, destructrice. Et là, il y a un échange entre l'homme. On a du mal à savoir si c'est l'homme lui-même ou les démons en lui qui parlent à Jésus. Mais là, on voit que cette multitude de démons, il dit « je m'appelle Légion ». En fait, une légion, c'était un... Voilà, ça pouvait compter jusqu'à 6000 soldats. Et là, quand les démons sont chassés, on voit qu'il y a 2000 porcs qui se jettent dans la mer. On voit l'intensité de cette force du mal. Mais quelle est la dynamique? C'est les démons qui supplient à Jésus qu'il les envoie dans les ports. Clairement, Jésus qui est parfaitement maître de la situation. Ce n'est pas un bras de fer, c'est Jésus qui dirige. Ses esprits le craignent. Et on voit la transformation de cet homme. Verset 15. Ils virent l'homme qui avait été sous l'emprise de cette légion de démons, assis là, habillé, déjà ce n'était pas sa coutume, habillé et tout à fait sain d'esprit. Il était de nouveau lucide, en interaction normale. Et tous ceux qui ont connu cet homme, ce monstre, en le voyant là, on dit, là, c'est pas normal, ce genre de changement. Là, on est en présence d'une puissance encore plus forte. Cette fois-ci, une puissance du bien. Et on continue. Troisième histoire, c'est Jairus, le chef de la synagogue, donc quelqu'un important dans la communauté. Viens trouver Jésus parce que sa fille est sur le point de mourir. Jésus, je te supplie, viens guérir ma fille. Jésus commence à y aller. Mais alors qu'ils sont en chemin, une quatrième histoire qui croise la troisième, la femme qui est atteinte d'hémorragie. Et là, Marc veut bien qu'on mesure l'ampleur de sa détresse. Non seulement elle est malade, mais elle est malade depuis 12 ans. À cause de sa maladie, elle a dépensé tout ce qu'elle avait. Sa maladie l'a ruinée. Et aucun médecin n'a pu faire quoi que ce soit. En fait, ça avait aggravé la chose. Mais elle avait entendu parler de Jésus. Elle s'est dit, voici un homme qui peut-être va me changer ma situation. Il suffit que je touche son vêtement. Et le miracle se fait, mais Jésus veut bien entrer en dialogue avec elle. Il ne veut pas que ça reste anonyme, donc il cherche dans la foule. Quelqu'un vient de trouver la guérison en me touchant mes vêtements. C'est qui? C'est qui? Il est dit que la femme, sachant ce qui lui était arrivé, s'avança, se jeta aux pieds de Jésus. Saisie de crainte et toute tremblante. Et Jésus lui dit, va en paix. Quelque chose qu'elle n'a pas connu depuis 12 ans. La paix dans son corps, dans son âme. Mais le pauvre Jairus, en attendant que ça se fait, on dit, ah, désolé, c'est trop tard. C'est trop tard. Et là, on imagine qu'il s'écroule. Ça y est, il n'y a plus rien à faire. Mais c'est Jésus qui ne lâche pas le morceau. Ne crains pas. Crois seulement. Et c'est Jésus qui va ressusciter cette fille comme si elle dormait. Lève-toi, ma petite. En toute simplicité, Jésus fait l'impossible. Il fait vivre une fille qui était décédée. Il montre sa puissance pour sauver. On voit bien les interventions de Jésus qui bouleversent, qui changent totalement la situation. Jésus et sa puissance pour sauver. Et on se dit, mais d'accord, et alors? Et pour moi, qu'est-ce que ça change? Si je connais Jésus, est-ce que je suis protégé de tout accident, de toute maladie, de tout malheur qui pourrait m'arriver? Alors la réponse de la Bible, c'est non. La Bible ne promet pas cela. Oui, Jésus est puissant aujourd'hui, comme il était en Galilée il y a 2000 ans. Mais il ne promet pas de délivrer de toute situation désespérée ceux qui croient en lui. Et il suffit de lire le reste du Nouveau Testament pour constater que les chrétiens souffrent et ne sont pas épargnés tous les malheurs possibles. En Actes chapitre 12, on lit que l'apôtre Jacques, le frère de Jean, est mis à mort par Hérode. Les chrétiens tombent malades, les chrétiens meurent, les chrétiens subissent des choses qu'ils auraient voulu éviter. Et la vie d'un chrétien n'est pas un long fleuve tranquille. Et dans ce cas-là, qu'est-ce que ça change pour moi? Qu'est-ce que ça m'apporte de savoir que Jésus est puissant pour sauver si finalement je n'ai pas la certitude qu'il va me délivrer de ma situation désespérée? Qu'est-ce que je peux retenir de ces histoires si je n'ai pas la certitude que Jésus va faire un miracle pour moi? Je ne sais pas si vous avez remarqué en suivant ces histoires, il y a le thème de la crainte et la foi qui traverse ces différentes situations. Dans la barque avec ses disciples, après qu'il a calmé la tempête, que dit Jésus? Pourquoi avez-vous si peur? Vous ne croyez pas encore? Jésus leur dit, vous avez vu la tempête, vous avez eu peur. Votre réaction était celle de la crainte. Mais si vous aviez cru, si vous aviez eu foi en moi, vous n'auriez pas eu la même réaction. Jésus est en train de les enseigner quelque chose sur la foi et la peur, la crainte. Que dit Jésus à Jairus? Ne crains pas, crois seulement. Dans chaque situation, il y a une crainte. Et Jésus dirige les personnes vers l'aspect de la foi, la confiance en lui. Quand je suis face à une situation, est-ce que je suis rempli de crainte? Est-ce que je suis paralysé par ce qui risque de m'arriver? Ou bien, est-ce qu'il y a une confiance en Jésus? Le fait que si je suis uni à Jésus par la foi, le mal et la souffrance n'auront pas le dernier mot sur ma vie. Que même si je devais mourir, je sais que Jésus me tient et il m'amènera avec lui, sain et sauf, de l'autre côté. Je n'aurai rien à craindre le jour du jugement. Dans une situation désespérée, la différence majeure entre un chrétien et quelqu'un qui n'a pas de foi, ce n'est pas la situation en elle-même, ce n'est pas forcément le résultat final, mais la manière que chacun vit la situation. Celui qui n'a pas de foi, il est terrifié. Il a peur. Et le chrétien peut laisser Jésus, sa confiance en Jésus, chasser sa crainte. Mais on voit quelque chose d'encore plus surprenant, et je l'ai essayé de le souligner au fil des histoires. C'est que nous voyons non seulement la crainte des situations terrifiantes, mais également la crainte de Jésus lui-même. On voit les disciples, verset 41 à la fin du chapitre 4, après que Jésus ait calmé la tempête, eux furent saisis d'une grande crainte. Ils se disaient les uns aux autres, « Qui est donc cet homme ?» pour que même le vent et le lac lui obéissent. Avant, ils craignaient la tempête. Maintenant, ils craignent cette puissance qu'a Jésus. Qui est cet homme avec qui on parcourt la Galilée, s'il peut faire cela? On voit la même chose après que Jésus a chassé les démons. À la fin du verset 15 du chapitre 5, ils virent l'homme qui avait été sous l'emprise de cette légion de démons, assis là, habillé et tout à fait saint d'esprit. Alors la crainte s'empara d'eux. Non pas la crainte des démons, mais la crainte de Jésus qui a pu les chasser. Et la femme qui a été guérie de son ses hémorragies, saisie de crainte et toute tremblante, elle se jette aux pieds de Jésus. Elle vient d'expérimenter la puissance de Jésus pour son bien, cette guérison instantanée, et maintenant, elle est saisie de crainte. Qui est cet homme qui peut faire cela? Est-ce qu'on comprend ce type de crainte-là? De nous rendre compte de la puissance de Jésus. Lui qui serait capable de tout détruire ou de tout rétablir, de tout faire disparaître, cette puissance absolue. Finalement, si Jésus peut faire cela, c'est lui qu'on doit craindre. Et trop souvent, je crois que cette image qu'on se fait de Jésus, à Noël, on parle du petit Jésus, ou bien dans certains films, il paraît tout doux, tout gentil, avec une robe blanche, des sandales, un peu mou, tolérant, inoffensif. C'est pas ce Jésus-là que nous voyons dans ces histoires. Le Jésus qui a vécu en Galilée a inspiré la crainte. Est-ce que nous le prenons au sérieux ou à la légère? Celui qui est puissant pour sauver, avons-nous mis notre confiance en lui pour nous délivrer de la situation la plus désespérée qui soit, notre péché, notre condamnation que nous méritons? Finalement, c'est bien plus grave, même d'une légion de démons, d'une tempête. Le Dieu de l'univers sera un jour notre juge. Et voici quelqu'un qui peut nous acquitter, qui peut nous dire, c'est bon, vous êtes pardonné grâce à mon sacrifice. Si nous croyons en Jésus, si nous le craignons, alors nous n'avons pas à craindre tout le reste. Oui, c'est vrai, nous ne savons pas ce qui nous arrivera demain, nous ne savons pas quelles épreuves nous aurons à traverser. pensant à cette semaine aux habitants de l'Ukraine, pensant peut-être aux chrétiens de l'Ukraine qui ne savent pas ce que les prochains jours vont révéler. Ceux qui sont dans les bunkers, dans le métro, souterrain, qui attendent les bombes. Le chrétien peut dire, Jésus me tient par sa main puissante et il ne va pas me lâcher. Non seulement il est puissant, il est bon, il est parfait, il est rempli de compassion. Est-ce que nous pourrons dire, comme le psalmiste, l'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Jésus est puissant pour sauver et il nous dit, ne crains pas, crois seulement. Craignons-le, nous n'aurons pas à craindre tout le reste.